Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport spécial Paris 2024.
Benoît Boutron.
Bientôt 14h sur RMC, l'Intégral Sport en direct du Parvis du Stade de France. C'est la journée olympique à 2 ans des Jeux de Paris 2024. Beaucoup d'animation. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir nous rendre visite. Le stand RMC est là, évidemment, au pied de la piste d'athlétisme. Beaucoup de simulations. Vous avez de l'escalade, vous avez différents sports qui sont proposés. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, venez nous rendre visite. Dans un instant, on parlera de la chance et l'importance de disputer des Jeux à domicile avec Roman Dico, notre championne de judo, évidemment, membre de la Dream Team RMC Sport, et avec Iséora Tibus. Et puis juste après, avant les infos, pardon, on va aller voir Morgane Maury pour le départ du Grand Prix MotoGP d'Assen au Pays-Bas. Salut Morgane.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Ça va partir d'ici quelques secondes, Morgane?
Ouais, d'ici quelques secondes. Le tour de chauffe est terminé. Les pilotes sont en train de se mettre sur la grille. Francesco Bagnaia est l'Italien qui est redoutable dans l'exercice des qualifications, a réussi la pole. Fabio Quartararo est juste derrière lui, deuxième sur la grille. Septième position pour Joan Zarco qui vise un top 5. Quartararo, lui, va essayer une passe de 3. Il a gagné la Catalogne, il a gagné l'Allemagne. L'homme avec le drapeau rouge sort de la piste. Les feux, dans un instant, vont s'éteindre. On fait crier les moteurs. C'est parti pour ce Grand Prix d'Assen, ce Grand Prix des Pays-Bas. Meilleur en vol pour Bagnaia, semble-t-il. Fabio Quartararo qui est pour l'instant deuxième à l'amorce du premier virage. Bagnaia premier, Quartararo qui est juste derrière lui, qui tente de faire l'extérieur. Non, il part trop loin, le pilote niçois. Il perd deux positions dans cette manœuvre après le deuxième tournant. Premier Bagnaia, Quartararo qui est en quatrième, cinquième épaisseur. Maintenant troisième le français, pardon. Troisième position, il a regagné une place le français. Premier Bagnaia, en deuxième position, c'est Jorge Martin et Fabio Quartararo qui est déjà à l'attaque pour essayer de récupérer cette deuxième position. C'est fait à l'instant, Benoît, avant la première chicane du circuit. Premier Bagnaia, deuxième Quartararo. Il reste 26 tours dans cette course. Joan Zarco, où se trouve-t-il? Il a rétrogradé, il était à 7e sur la piste, il a raté son envol, il est 12e l'Avignonnais.
14h01 sur RMC, l'heure des infos.
RMC Intégral Sport spécial Paris 2024.
7 secondes, la France va être championne olympique par équipe après la moisson exceptionnelle. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, championne olympique. La France championne olympique, Sarah Léonie Cizik, Axel Clerget, Teddy Riner, Clarisse Agbenienou, Romain Dico, Guillaume Chen, Margot Pino ce matin. Les samouraïs français sont battus, les samouraïs japonais chez eux, à la maison. La Dream Team française a battu la Dream Team japonaise. C'est fou en tribune, c'est fou ce qui s'est passé.
L'Intégral Sport exceptionnel aujourd'hui, 14h05. Vous êtes sur RMC en direct du Parvis du Stade de France à l'occasion de cette journée olympique. Un peu plus de 2 ans des Jeux de Paris 2024. Dans un instant, on reçoit deux championnes, deux femmes qui ont brillé à Tokyo sur les Jeux de 2020, évidemment les Jeux de Tokyo 2020. Roman Dico qui a décroché 2 médailles en judo, dont 1 en or par équipe, et Iséora Tibus qui sera avec nous, escrimeuse médaillée d'argent par équipe en fleuret. On parlera avec elle de l'avantage de disputer des Jeux Olympiques à domicile. Roman est en plus issu de la région parisienne, donc imaginez le soutien populaire qu'elle aura. On parlera également à 14h30 de la planification d'une préparation olympique. On sera avec Benjamin Robert, sacré champion de France du 800 mètres hier soir à Caen. Il sera avec nous en direct avec son coach. Antoinette Anadjimou sera également notre invité. Et puis les directs dans l'Intégral Sport, la suite du vélo, le championnat de France masculin à Cholet, et la suite du MotoGP, le Grand Prix des Pays-Bas, la 11e manche du championnat du monde. C'est reparti pour l'Intégral Sport. Et justement, on l'a entendu, c'est notre commentateur olympique. Il est également sur la moto cet après-midi, Morgane Maury, spécialiste de judo également, qui suit ce Grand Prix des Pays-Bas. Morgane, on en est où?
On est à côté de la moto, on ne voit pas sur ces machines. Un groupe de 3 hommes se détache, encore 23 tours dans ce Grand Prix des Pays-Bas MotoGP. C'est Pecco Bagnaia sur la Ducati rouge, devant lui Alex Espargaro sur la Aprilia, le deuxième du championnat du monde. Et le troisième homme, c'est Fabio Quartararo qui vient de signer le meilleur tour en course. Il reste 22 tours, Joan Zarco est plus loin. Il est en 11e position, le pilote Ducati. 22 tours encore à courir dans ce Grand Prix des Pays-Bas. Bagnaia, Espargaro, Quartararo, le trio de tête.
Morgane qui est plus à l'aise avec un kimono qu'avec un casque de moto, hein, vous l'aurez compris. Évidemment, tu suis ce Grand Prix MotoGP. Le cyclisme également, Pierre-Yves Leroux, les championnats de France à Cholet, cette course masculine, Pierre-Yves.
Oui, déjà 3 heures de course ici à Cholet avec des garçons qui ont mis le feu très rapidement, notamment Benoît Cosnefroy. Et puis c'est une grosse échappée qui s'est dessinée avec 14 hommes en tête, 2 minutes 30, et ça n'arrive pas à creuser plus parce que du côté de l'équipe du favori Arnaud Démare, la Groupama, eh bien on a décidé maintenant de surveiller de près cette échappée. Il reste un tout petit peu plus de 100 km et donc maintenant les choses sérieuses vont vraiment commencer, Cyril.
Attention, moment important, la chute de Fabio Quartararo au Grand Prix Moto des Pays-Bas, Morgan.
Eh oui, une tentative de dépassement sur Alex Espargaro dans un virage à droite, et le Français qui a emmené l'Espagnol à terme. Il est aussi allé au sol, le pilote français qui a pu se relever, drapeau jaune dans le premier secteur. Ça laisse Pecco Bagnaia tout seul en tête sur sa Ducati devant Marco Bezzecchi et Jorge Martin. Je vous redécris l'action, un long virage à droite puis un passage à gauche. Fabio Quartararo qui tente l'intérieur sur Alex Espargaro, qui perd l'avant de sa machine et qui vient poussé dans le gravier son adversaire espagnol. C'est le Français qui a chuté le premier et qui a forcé l'Espagnol à sortir de piste. Le Quartararo qui s'est relevé, qui est remonté sur sa Yamaha et qui a repris la course, mais il est très loin maintenant. Fabio Quartararo, Bagnaia premier, deuxième Bezzecchi, Johan Zarco est en 9e position.
Et c'est un événement, c'est la première fois de la saison qu'il chute, Fabio Quartararo, lui qui est largement leader du championnat du monde de MotoGP. Merci Morgan. Il est 14h08, vous écoutez RMC en direct du parvis du Stade de France, la journée olympique. Et attention messieurs dames, une championne olympique est en direct avec nous, membre de la Dream Team RMC Sport. C'est Romane Dico, la judokate évidemment. Salut Romane.
Hello.
Comment ça va Romane? Ici chez toi à Paris, parvis du Stade de France. Ouf, ça met des frissons à 2 ans des Jeux de Paris 2024.
Hein. Exactement, ça va très bien. Il y a beaucoup de monde, vraiment, ça met du baume au cœur de se dire que les Français sont là et sont prêts pour Paris.
Je rappelle qu'en individuel, tu avais décroché la médaille de bronze, et par équipe, c'était un événement fantastique qu'on a suivi l'été dernier. Cette médaille d'or par équipe mixte, c'était magnifique à Tokyo en 2020. Je voulais parler avec toi, Isao Ratibus va nous rejoindre dans quelques instants, mais de cette chance, cette opportunité unique de disputer des Jeux Olympiques à domicile devant ta famille, puisqu'on le disait, tu es de région parisienne. Question toute simple déjà pour démarrer, est-ce que tu vois ça uniquement d'un côté positif avec un engouement exceptionnel, ou est-ce que ça te met une forme de pression aussi finalement?
J'aurais peut-être dit la pression si j'avais pas fait Tokyo, mais là Tokyo pour moi c'était un peu l'échauffement, il n'y avait pas de public, pas mes proches, donc j'ai pu commencer tranquillement, et après du coup Paris dans 2 ans, j'imagine avec mes parents dans les gradins, mes amis, le public français, et forcément ça excite beaucoup de se dire qu'on va pouvoir combattre à la maison aux Jeux Olympiques.
Tu as connu une prépa olympique donc pour Tokyo, ça s'est bien passé. Est-ce que dès le lendemain de Tokyo, tu avais déjà en tête Paris 2024? Est-ce que tu y penses d'ores et déjà tous les jours?
Pas dès le lendemain, après mes vacances quand même. J'ai un peu coupé, mais c'est vrai que rapidement, on se dit que les Jeux, c'est l'objectif d'une Olympiade. Donc, voilà. En plus, c'est arrivé vite parce que Tokyo a été décalé, donc Paris, c'était déjà dans 3 ans après. C'est arrivé très rapidement, mais forcément, on y pense tous les jours parce que on a goûté, enfin, après avoir goûté à la médaille de bronze olympique en individuel, j'ai envie de goûter à l'or, et je me dis qu'est-ce qui serait plus beau que de goûter à l'or à la maison dans 2 ans.
Alors, tu le sais, notre spécialiste. Le judo, c'est Morgan Mori. On l'a rapatrié du Japon, le petit japonais. Il est bien avec nous. Il suit la moto cet après-midi pour RMC. Mais Morgan a une question pour toi, Roman.
Oui, Roman, il faut se qualifier aussi. Il y a une place forcément pour un judoka français dans chaque catégorie. Donc il y aura 14 catégories en judo, il y aura 14 français, ça c'est sûr. Mais il y a une concurrence française à dompter, Julia Tolofua et d'autres, Léa Fontaine, qui vont te mener la vie dure. Tu sais que tu vas vivre avec ce rôle de chassé pendant les 2 ans jusqu'à Paris 2024.
Je sais, mais j'accepte ce rôle, Morgan, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est important, la concurrence franco-française, elle est très présente dans toutes les catégories. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est aussi fortes. Les filles, on sait que peu importe qui ira au jeu, ce sera une personne qui pourra faire une médaille, donc il faudra se battre pour être la personne sélectionnée, ça c'est sûr. Mais ça, c'est un travail à l'entraînement et à chaque compétition. Mais t'inquiète pas, je suis prête.
Ah, bon, tu la connais, Morgan, après, oui, elle sera au rendez-vous. Voilà. Romane Dico en direct avec nous. En plus, tu es membre de la Dream Team RMC Sport. Quelle est ton actualité là? Et attention, il y a le Grand Slam de Budapest qui arrive vite. Hein. Finalement, tu vas pouvoir te jauger assez rapidement là cet été là.
Exactement. Dernière compétition avant les Mondes dans 2 semaines. Grand Slam de Budapest et première compétition du coup pour les Françaises et les Français d'ailleurs pour la qualification olympique de Paris. Donc au judo, en fait, c'est des points qu'on marque à chaque compétition et la course olympique commence à Budapest dans 2 semaines.
Le judo, ça a été pourvoyeur de médailles à Tokyo. C'était la meilleure équipe de France au-delà des sports collectifs. Est-ce que ça vous met une pression particulière ou au contraire, ça vous permet de surfer sur l'engouement et ça vous donne encore plus de notoriété? Tu vois ça comment, toi?
Je vois ça comme vraiment positif parce que c'est vrai que pendant le Covid, on a un peu souffert. On était un sport de contact, donc on a perdu beaucoup de licenciés. On avait beaucoup moins d'audience, on va dire. Mais c'est vrai qu'après les Jeux, on a montré que le judo, c'était un sport pour tous, surtout pour les enfants, peu importe son âge, son poids, etc., etc. Et voilà, ça nous a ramené beaucoup de licenciés et je trouve ça vraiment positif parce qu'on voit que les gens veulent faire du judo de plus en plus et il y a eu beaucoup de licenciés, donc vraiment tant mieux.
Ouais, donc tu vois ça plutôt comme une bonne nouvelle. On le disait, il y a ce grand slam de Budapest et puis les mondiaux en fin d'année. T'as une année, quoi qu'il arrive, 2022 chargée, quoi. Il n'y a pas de pause pour toi pour l'instant, hein.
Pas de pause, exactement. Après Budapest, on partira en stage tout l'été jusqu'à octobre pour préparer les mondes, justement. Ça va être très intense, mais je pense que c'est aussi ça, la course olympique, encore plus à la maison. Chaque compétition va compter, donc il faudra une préparation optimale.
14h12 sur RMC, vous écoutez l'Intégral Sport. On est avec Romain Dico, membre de la Dream Team RMC Sport, double médaillé aux Jeux de Tokyo, la judo 4 évidemment. On parlait de cet engouement, cette chance de faire les Jeux à domicile à Paris en 2024. Parle-nous de tout ça. Toi, tu es issu de région parisienne, je le disais. Et avant d'ouvrir ton micro, justement, on discutait un petit peu tous les deux. Tu me disais, c'est incroyable déjà le nombre de demandes de billets que je reçois alors que personne n'y a accès pour l'instant. Il y a déjà un engouement complètement dingue autour de toi. Quoi.
Exactement. On me demandait même avant les Jeux de Tokyo. Je disais, les gars, laissez-moi faire Tokyo d'abord. On
laissez-moi me qualifier
Paris.
Déjà.
Vraiment, c'est vraiment ça. Mais je pense ça comme du positif. Je me dis que les Français et même mes amis ont hâte. Ils veulent me voir combattre à Tokyo, à Paris, à la maison dans 2 ans, donc tant mieux. Par contre, leur dis les gars, doucement, on verra 2024 pour les places.
Voilà, déjà on a le temps de se projeter là-dessus évidemment. Parlons justement de l'emplacement des épreuves de judo, a priori au Champ de Mars, emplacement magnifique en plein cœur de Paris. Ça aussi c'est extraordinaire, Romain.
Vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance d'être à Rio avec mon premier club dans les gradins et c'est vrai que les épreuves étaient un peu excentrées du centre-ville.
Ouais.
Là à Paris, on a des épreuves dans la ville, vraiment dans Paris, sous la Tour Eiffel. C'est vraiment magnifique et je me dis que ça sera des jeux exceptionnels et c'est vraiment très hâte.
Ouais, c'est la chance effectivement de Paris 2024 d'avoir plein d'infrastructures en plein cœur de la ville. L'équipe féminine a bien marché, notamment en judo et puis même l'équipe mixte d'ailleurs, parce que tu as décroché l'or olympique. C'est aussi important pour toi les compétitions collectives qu'individuelles, tu vois ça de la même façon? Une médaille est une médaille et quoi qu'il arrive, tu veux tout rafler en 2024?
Oui, complètement. Après, forcément, en tant que sportive individuelle, je chéris plus ma médaille individuelle des Jeux Olympiques. Mais l'épreuve par équipe, c'est notre épreuve. C'est une chance pour les judokas d'avoir 2 médailles. Et je pense que c'est vraiment à prendre. Et d'autant plus que là, c'est une épreuve mixte. Donc, je pense que ça a aussi beaucoup marqué les Français parce que ça montre bien qu'on est un sport où, voilà, les filles et les garçons, les hommes et les femmes combattent ensemble pour un même but. Et ça a montré, je pense, un très beau message.
Bon, t'as déjà en tête la date de ta compétition ou pas encore?
Non. Pas encore, il y a le temps.
Et Morgane parlait de la sélection, il y a de la concurrence en équipe de France. Comment va-t-elle s'opérer cette sélection? Comment ça marche, les critères de sélection du coup?
En fait, comme on est à domicile, il y aura forcément un Français par catégorie de poids.
D'accord.
Et ensuite, c'est la fédération qui va sélectionner qui elle va emmener.
Donc c'est pas forcément lié au résultat. Admettons, tu souffres d'une blessure. Admettons, Teddy Riner est blessé pendant une partie de l'année. Si on veut favoriser Teddy Riner, on peut choisir de l'envoyer.
Oui, bien sûr, c'est pas forcément la personne la mieux rankée. Après, typiquement, normalement, c'est la personne mieux rankée qui a plus de chance.
Bien sûr.
Mais voilà, on n'est jamais à l'abri du Teddy Riner qui se blesse, on ne sait jamais. On n'espère pas, bien sûr, Teddy, t'inquiète pas. Mais c'est vraiment la fédération qui choisit, en fait. C'est une sélection nationale.
Bon, Roman, on est ici sur le parvis du Stade de France. Tu es de région parisienne, évidemment. Il y a plein de sports que tu peux tester. Je vois le hockey sur gazon, je vois l'escalade, je vois le tir à l'arc. Est-ce qu'il y a un sport qui te fait envie? Est-ce que là, en quittant le studio, tu vas aller tester quelque chose?
Moi, j'ai envie de tester l'aviron, moi, parce que je vais tester sur l'eau un peu. J'ai fait de sport.
Et c'est vrai qu'il y a le bassin juste à côté.
Exactement. Ouais, donc, je pense que j'irai faire un tour après.
Bon, parfait, exact. Eh ben, merci beaucoup, Romain Dico. On te retrouve bientôt sur RMC, évidemment, membre de la Dream Team RMC Sport. À bientôt, et puis tu seras avec nous donc pour ces Jeux et cette Olympiade de Paris 2024. Merci, Roman.
Merci.
14h15 sur RMC. Un petit détour, justement, par le parvis, les nombreuses activités qui vous attendent aux abords de ce Stade de France avec Pierre Thévenet, notre journaliste. Tu es où, Pierre, alors? Salut, Pierre.
Alors, bonjour. Je suis sur le stand du hockey actuellement. Le hockey qui est pris d'assaut par les tout petits, beaucoup de tout petits qui viennent essayer ce sport. C'est encadré par des éducateurs de clubs et des bénévoles. Il y a 6 petites cages en fait autour de moi, ce qui permet d'accueillir beaucoup de monde en même temps. Et dans l'après-midi, il prévoit même un mini-match entre les plus aguerris. Je suis avec un jeune homme en train de jouer au hockey. Bonjour jeune homme.
Bonjour.
Comment tu t'appelles?
Léon.
Qu'est-ce que t'aimes dans le hockey alors?
Quand on frappe dans la balle.
Ouais, t'en avais déjà fait avant?
Non.
Et alors, c'est une réussite?
Oui.
Tu veux en faire plus tard?
Je sais pas.
Tu sais pas? En tout cas, comme Léon, ils sont beaucoup à s'amuser. Il y a la joueuse de l'équipe de France, Julie Brachet, qui devrait être présente tout à l'heure pour faire quelques démonstrations de jongle notamment.
Ah, petit problème de connexion effectivement avec Pierre Thévenet au niveau du parvis du Stade de France. Donc on le remercie en tout cas, on a compris l'initiation au hockey sur le gazon. 14h16, le tour de nos directs avec ce Grand Prix MotoGP d'Assen aux Pays-Bas. Où en est-on, Morgan Mori?
Ouais, pour Fabio Quartararo, c'est un Grand Prix cauchemar. Il a envoyé, il est parti au tapis dans un accrochage avec Alex Espargaro. Il naviguait en 23e position. Le pilote niçois, il semblait se plaindre de soucis mécaniques sur sa Yamaha. Il est passé au stand, a décidé de repartir, mais ce n'est pas le Fabio Quartararo des grands jours. Forcément, il n'inscrira probablement aucun point dans ce Grand Prix d'Assen. Il reste 16 tours. Bagnaia sur la Ducati est en tête devant Marco Bezzecchi et Jorge Martin. Joan Zarco, après avoir raté son départ, lui qui était 7e sur la grille, et pour l'instant 9e. Forcément, Quartararo perdra des points au championnat du monde dans cette course avant les vacances. 5 semaines de vacances après ce Grand Prix pour les pilotes MotoGP.
Exactement, ce sera la trêve après ce Grand Prix des Pays-Bas. Direction Cholet, également les championnats de France de cyclisme. Pierre-Yves Leroux, où en est cette course? Est-ce que la Groupama fait encore le boulot, Pierre-Yves?
Eh bien, justement, la donne a un petit peu changé. 2 minutes 23 d'avance pour les 14 hommes de tête. Et Cyril, eh bien, ils ont du renfort du côté de la Groupama d'Arnaud Démare. Et ça te surprend un petit peu?
Oui, dans la mesure où on est encore à 2h30 de l'arrivée, on va dire un peu moins à 100 km, et que là, il y a l'ensemble du train de Arnaud Démare qui est en tête avec une douzaine de coureurs. Je ne vois pas très bien l'opportunité ou l'utilité de commencer à mettre un équipier à l'avant pour soulager le travail de l'équipe Groupama FDJ, alors qu'on n'est pas obligatoirement certain que les sprinters de ces deux équipes soient en capacité de pouvoir battre à Arnaud Démare. Donc un peu surprenant, mais bon, il y a tellement de choses qui nous surprennent dans le cyclisme moderne aujourd'hui.
Voilà. Benoît, pour préciser, c'est donc Cofidis pour Brian Coquart et puis Saint-Michel Aubert pour Jason Tesson qui viennent donner un coup de main à la Groupama à maintenant 100 km de l'arrivée.
Et ouais, c'est toute la question de ces championnats de France, les gars, vous le disiez, c'est de savoir si ça va arriver au sprint. C'était pas le cas chez les féminines hier, ni chez les amateurs. Donc on verra ce qui se passe cet après-midi. Merci Pierre-Yves, on retrouve Morgane également dans un instant. La suite de l'Intégral Sport en direct du parvis du Stade de France, 14h19. Dans un instant, on accueille Antoinette Nanadjimou, évidemment, légende de l'heptathlon, qui est avec nous. On va parler avec elle justement de l'engouement autour de Paris 2024, la chance de faire des jeux à domicile, elle qui a terminé quatrième en 2012, alors que c'est une Britannique qui avait remporté l'or olympique. À tout de suite sur RMC.
Superbe médaille d'argent olympique pour l'équipe de France de rugby féminine à 7. Les filles qui seront allées au bout de leur projet. On voit de la déception, bien sûr, là pour Shannon Izard. La France est médaillée d'argent en rugby à 7 pour cette équipe de France féminine. Elles ont fait un superbe tournoi. Bravo les filles.
RMC Intégral Sport spécial Paris 2024.
Le coup de pied à la tête de Mawashi Guiri, Steven Dacosta. Non, ça ne marque pas. 3 secondes. 3 secondes du titre olympique de Mawashi Guiri pour finir. Oui, la classe. Steven Dacosta, il va marquer sur ce Mawashi Guiri à la tête. Une seconde, mais oui, le hippo 5-0, c'est la classe Steven Dacosta.
Benoît Boutron. 14h23 sur RMC, c'est l'Intégral Sport en direct du parvis du Stade de France en cette journée olympique. On est avec énormément d'invités. Il fait beau, il fait chaud. Vous pouvez venir assister à ce grand événement. Vous pouvez vous tester aux disciplines olympiques. Il y a l'escalade, il y a le rugby, il y a le hockey sur gazon, il y a le tir à l'arc, il y a le water polo. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a du direct également cet après-midi sur RMC avec, malheureusement, au Grand Prix Moto des Pays-Bas, une nouvelle chute pour Fabio Quartararo, Morgan Mori.
Ah oui, celle-là est définitive. Benoît, à 13 tours de l'arrivée, au même virage que tout à l'heure, il avait perdu l'avant dans son duel avec Alex Espargaro. Cette fois-ci, c'est l'arrière de sa moto qui s'est dérobée, un outside, la roue arrière qui se soulève, qui vous catapulte. Quartararo est passé par-dessus sa moto, il est tombé sur le bitume du Grand Prix d'Assen. Est-ce qu'il s'est fait mal à la clavicule? Il a pu se relever, marcher, être raccompagné jusqu'à son stand. Ça va être l'angoisse dans les minutes qui viennent. Benoît, Quartararo s'est blessé à la clavicule, c'est possible, c'est le genre de blessure qui intervient dans cet accident, dans ces outside. Il est exclu de la course, en tout cas le français. Il reste 11 tours. Bagnaia est toujours en tête sur sa Ducati devant Marco Bezzecchi et Jorge Martin. Joan Zarco remonte petit à petit. Il est 8e sur sa Ducati, le pilote français.
Merci Morgane. Les championnats de France d'athlétisme également à Cholet, Pierre-Yves Leroux et Cyril Guimard. Est-ce qu'on est toujours sur la même stratégie de course du coup? De vélo, pardon.
Oui, exactement. Toujours une échappée devant, 2 minutes 10 d'avance, 92 km et un garçon qui est derrière dans les voitures, Julian Alaphilippe. C'est pas très inquiétant à mon avis parce qu'il était devant tout à l'heure. Il est peut-être parti se restaurer, Cyril. On n'est pas trop inquiet quand même.
Non, pas pour l'instant. D'abord parce qu'il continue à s'alimenter et que d'autre part, il a peut-être tout simplement eu besoin d'aller faire ce qu'on appelle
un petit besoin. C'est l'heure.
Un besoin. Oui, c'est naturel. L'heure. Oui, avant d'aller à la sieste.
Voilà, Benoît. Donc configuration tranquille encore. Hein, 90 km. Non, mais c'est-à-dire que on laisse pas plus de 2 minutes 30 aux échappés. Et puis comme il y a un coup de main pour la Groupama FDJ avec la Cofidis et Saint-Michel Aubert, c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans la configuration d'un sprint massif, mais bon, il peut se passer des choses encore. 90 km.
Rappelons qu'on est déjà content de voir Julien Alaphilippe en compétition à 5 jours du départ du Tour de France. D'ailleurs, le tour à suivre en direct sur RMC avec la Dream Team Vélo, Cyril Guimard et Pierre-Yves Leroux. Il y aura Christophe Cessieux également. Mais Cyril, l'important c'est qu'il soit là. Il n'a pas de prétention aujourd'hui, Julien Alaphilippe, évidemment.
Non, imaginons qu'il lâche tout le monde dans le final et qu'il va gagner, on pourrait se poser quand même énormément de questions sur l'utilité de s'entraîner.
Ça c'est sûr, exactement. Bon, vous nous tenez informés évidemment de la suite de cette épreuve. C'est intéressant de savoir qui sera le porteur du maillot tricolore. On espère déjà qu'il sera au départ du Tour de France, comme ça on aura le maillot tricolore sur les routes du Tour. 14h26 sur RMC. Nouvelle invitée dans l'Intégral Sport, Antoinette Nadjimou, double championne d'Europe de l'heptathlon, qui est en direct avec nous. Salut Antoinette.
Salut.
On va parler avec toi dans un instant justement de la chance de disputer des Jeux à domicile à Paris en 2024. On parlera également de l'état de l'équipe de France d'athlétisme, parce que c'est vrai qu'on se pose quelques questions après le fiasco de Tokyo 2020. Mais on va être honnête, Antoinette, on est tous les deux face au micro, et puis là il y a tous les spectateurs qui passent, et il y a le jeune Noam qui est passé devant nous, maillot du PSG sur les épaules, qui
Salut,
m'a dit
Noam.
Qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est filmé, est-ce que je peux venir? Je dis bah, viens t'installer à côté de nous. Et Noam qui est donc au micro des RMC. Salut Noam.
Bonjour, bonjour.
Bon, t'as quel âge Noam?
J'ai 13 ans.
13 ans. Et t'habites ici à Saint-Denis?
Non, j'habite à Bondy.
T'habites à Bondy. Ok, donc le 93 également, la ville de Kylian Mbappé, donc joueur du PSG. Oui. Pourquoi t'es venu ici? Comment t'as entendu parler de cette journée olympique, Noam, alors?
Bah, c'est ma mère qui m'en a parlé, après j'ai décidé de venir avec elle.
D'accord, donc elle est là avec toi, ta maman, cet après-midi. Et est-ce que tu t'es testé à différentes disciplines?
Oui.
T'as essayé quoi alors?
Le hand.
Ouais.
Le volet et le foot.
Ça t'a plu?
Oui.
Et l'athlétisme?
Non, ça j'ai pas essayé.
Antoinette est recrute. Elle a raison. Bon, explique-nous, est-ce que tu vas suivre avec attention ces Jeux de Paris 2024? Est-ce que c'est un événement qui t'intéresse? Est-ce que tu as envie justement d'être spectateur dans 2 ans?
Oui, j'aimerais bien, mais les places elles sont chères.
Ah bon, on sait pas encore, elles sont pas en vente.
Et oui, j'aimerais bien voir.
Bon, ça t'intéresse. En tout cas, c'est un événement qui t'intéresse, toi qui aimes le sport. Fan du PSG, voir Mbappé rester, ça t'a fait plaisir, oui. J'imagine. Ouais. Bon, t'es confiant pour la saison prochaine?
Oui, je pense.
Bon, bah ça va, tant mieux alors. Merci Noam d'être passé sur RMC. Et évidemment, reste à l'écoute, parce que tu le sais, RMC, c'est la radio de Paris 2024. Donc les Jeux Olympiques seront à suivre chez nous. 14h28, Antoinette, merci d'être là, merci d'être avec nous.
Ben, merci à vous de me revoir.
Voilà, Antoinette, que vous pouvez écouter notamment sur les meetings d'athlétisme sur l'équipe, notamment les championnats de France qui se poursuivent et que l'on suit également sur RMC. Antoinette, je le disais, donc toi, tu as fait plusieurs fois les Jeux Olympiques. Tu as fait une 4e place à Londres en 2012.
Ouais.
Et celle qui est devenue championne olympique était britannique.
Ouais,
est-ce qu'elle a bénéficié de l'apport du public? Est-ce que c'est essentiel, justement? Est-ce que c'est un avantage pour les athlètes français dans 2 ans d'avoir la chance de concourir devant leur public?
Bah, c'est très important, surtout que quand tu es athlète, et tu es favori ou tu es médaillé dans d'autres championnats avant. Mais le fait d'avoir la compétition chez toi à domicile, bah, ça porte un plus. Rien que de voir ta famille, tes amis, le public qui te porte. En fait, moi, je trouve que ça te donne des ailes.
Ouais.
En fait, tu te transcendes. T'es pas la même personne que quand tu vas à l'étranger faire la compétition.
Il y a aussi un aspect dont on parle peu, c'est qu'il y a pas aussi tout ce côté voyage, décalage horaire, etc. C'est que t'es chez toi, tu as la chance. Certains athlètes se préparent à l'INSEP, par exemple.
Ouais.
Ils vont faire leur compétition en région parisienne. Ils seront pas du tout dépaysés. En tout cas, ils seront.
Non, t'es pas dépaysé. Mais le seul truc, c'est que en fait. C'est les jeux, donc en fait il faut que tu te mettes vraiment dans l'ambiance des jeux. C'est pas parce que c'est à domicile que tu dois te comporter comme si c'était une compétition de lambda. Faut pas oublier que quand même c'est un événement qu'on attend tous les 4 ans. Donc là en fait non seulement c'est à domicile, certes le public te porte, mais t'as aussi plus de pression parce que tu te dis, je suis devant mon public, donc en fait, je dois prouver des choses au lieu de faire en fait ce que tu sais faire.
Donc ça peut être une pression supplémentaire
aussi pour certains athlètes.
Chez toi, ouais.
Moi, je fais partie des athlètes en fait qui aimaient bien cette adrénaline, puisque ouais. Moi, la première fois que j'ai fait une médaille, ouais. J'ai fait champion d'Europe à Bercy devant mon public.
Ouais.
Moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Sachant que je suis arrivée outsider, je finis championne d'Europe avec la meilleure perf mondiale. Bah pour moi c'était top. Moi j'aime ça, j'aime cette adrénaline là.
D'autant plus que tu viens d'un sport qui peut s'appuyer sur le soutien d'un public.
Bah oui, beaucoup.
L'athlète, c'est un sport individuel disputé dans des stades.
Ouais.
Évidemment quand t'es en plein concours, on te soutient à bloc et là ça peut compter, ça peut t'apporter les petits pourcentages qui font la différence.
Ah bah oui, beaucoup. Surtout que c'est vrai que l'athlète c'est un sport individuel. Moi je fais de l'heptathlon. L'heptathlon en fait on n'est pas trop considéré comme un sport individuel puisque on souffre peut-être ensemble avec les filles.
En même temps, tu as 18 coachs. Donc
Non, j'ai pas 18 coachs, j'ai qu'un seul coach. En fait, on souffre ensemble.
Ouais.
En fait, c'est comme si c'était un sport collectif. C'est bizarre de penser comme ça.
Ouais,
quand je fais un sport individuel. Pour moi, je pense
c'est vrai que c'est une mentalité différente. Tu souhaites aussi que la fille d'à côté réussisse. C'est vrai que chacune donne le meilleur de soi.
C'est normal, on est peut-être adversaire. Par exemple, nous, à l'EPTA, on est adversaire sous le stade. On s'encourage, mais à l'extérieur, on est des amis, on est des copines,
ouais,
on sort ensemble, on va en vacances ensemble.
Ouais.
Donc pour moi, en fait, cet état d'esprit-là, c'est typiquement de toute façon de l'heptathlon, donc c'est pas tous les sports qu'ils font. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut garder.
C'est le sport roi, l'athlétisme, le sport roi des Jeux Olympiques. C'est toujours très attendu. Évidemment, la course qui est peut-être la plus attendue de toutes les éditions des Jeux Olympiques, c'est le 100 mètres.
Ouais,
évidemment,
c'est normal.
C'est l'athlète, c'est la course reine. On est un peu inquiet malheureusement pour cette équipe de France d'athlétisme, Antoinette. On a fait une seule médaille à Tokyo, c'était la médaille de Kevin Mayer.
Grâce à Kevin.
Qui malheureusement était blessé en plus ce jour-là, donc il n'a même pas pu aller chercher l'or olympique. On a du mal à être confiant quand même. À 2 ans des Jeux, on a du mal à avoir un petit peu de renouveau. Il y a quelques bonnes perfs. On sera avec Benjamin Robert d'ici quelques secondes, qui lui est 4e meilleur performeur de la saison sur le 800 mètres.
Ouais.
C'est difficile de dégager des têtes d'affiche de l'athlétisme. C'est ça qui nous fait peur.
Bah en fait, c'est très difficile. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, moi, j'étais dedans, j'étais dans le feu de l'action, donc je voyais pas ça de l'extérieur. L'année dernière, j'ai eu l'occasion en fait de regarder les Jeux à la télé.
Ouais.
Bah c'est bizarre, hein, la sensation que j'avais, dans le sens où j'arrêtais le sport, j'étais pas avec eux à Tokyo. Mais en fait, j'étais mal, comme si c'était moi qui tentais de performer, qui faisais des mauvaises performances.
Ouais. Tu l'as mal vécu, quoi.
Bah, je l'ai mal vécu, c'est bizarre, j'y étais pas. Donc, je vois pas pourquoi je l'ai mal vécu, mais en fait, je me sentais quand même. Comment je peux dire ça? J'étais concerné.
T'étais impliqué, quoi.
Puisque pour moi, je fais toujours partie de l'équipe de France,
c'est
même si je
ne
suis plus. Voilà. Ouais. Donc, en fait, de voir les autres disciplines performer, tu te dis, mais pourquoi nous, un athlète, c'est pas aussi performant que les autres? Qu'est-ce qu'ils font que nous, on fait pas?
Alors, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu es un petit peu donc sorti, puisque tu as pris ta retraite sportive, donc t'as un peu de recul vis-à-vis de tout cela.
Ouais.
Quel est le problème, tout simplement? Est-ce que c'est un problème structurel? Est-ce que c'est un problème d'entraînement? Est-ce que c'est un problème de talent pur et dur? Parce que l'athlétisme, c'est avant tout du talent naturel aussi sur différentes disciplines. Comment tu analyses ça, toi?
Bah en fait, ça dépend. Moi, je pense que ça doit vraiment être un problème par rapport aux athlètes, dans le sens où il faut savoir pourquoi tu fais ce sport, dans le sens où tu fais de l'athlétisme. Il y en a plein, en fait, maintenant, qui font l'athlétisme. Mais je sais pas s'ils font l'athlétisme parce qu'ils aiment ça, ou parce qu'ils veulent être des champions, ou juste ils font juste tout ça pour le plaisir.
D'accord.
Et moi, en fait,
cette mentalité de vainqueur,
de
gagnant. Quoi.
Là, quand je regarde, à part Sacha Joya, comme j'ai dit hier à la télé.
Sur 110 mètres,
lui, il a vraiment l'attitude d'un winner. L'attitude que, par exemple, ça se voit que c'est pas l'attitude française, c'est une attitude, on va dire, anglo-saxonne, dans le sens où ils ont le. Comment on appelle ça là?
Ils ont la détermination, c'est vrai que
eux, il faut qu'ils gagnent. En fait, ils viennent en compétition, c'est pour gagner.
Et ils assument l'envie d'être les meilleurs.
Voilà, ils assument, même si.
On l'a vu dans sa célébration d'ailleurs, Sacha Joya qui bat son record personnel.
Non, en fait, c'est cette attitude-là qu'on doit avoir. Parce que c'est vrai que maintenant, en fait, les athlètes, maintenant en France, moi, c'est mon avis. Hein.
Ouais.
En fait, ils se contentent de ce qu'ils ont. Dans le sens où, en fait, non seulement maintenant on a tout, maintenant on a tout vite. Avant, tu n'avais pas de sponsor tout de suite. Maintenant, tu as un sponsor. Tu n'as même pas fait championne de France, ou tu n'es même pas qualifié championne de France. Tu as un sponsor maintenant. En fait, tu ne cherches même plus.
Ouais.
Tu cherches même plus à prouver que tu es bon. En fait, on te récompense sans avoir prouvé que tu as fait quelque chose.
Donc, si je comprends ce que tu nous dis, pour toi, c'est aussi avant tout un problème de mentalité.
Ouais. Un problème de mentalité. Le problème aussi que, comme je dis toujours, pourquoi tu fais le sport? T'es là, pourquoi tu veux être ton champion? Moi, j'ai commencé l'athlète. C'est vrai que c'était pas mon sport de prédilection, dans le sens où moi, je voulais tout faire. Moi, j'ai commencé parce que je m'ennuyais.
Ouais.
À partir du moment que j'ai vu que c'est devenu un truc où moi, j'aime gagner. Donc, moi, j'avais déjà ça depuis toute petite. Donc, j'ai eu cette chance-là.
Ouais.
Mais maintenant, tu te dis, mais quand je parle avec des jeunes, je dis, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Bah, je suis là, je m'entraîne.
Ouais, j'aime courir.
Tu sais, normalement, quand tu entraînes chaque année,
je veux être champion du monde.
Tu te mets tes objectifs. Dis-toi que je veux me qualifier. Un objectif, hein. Je vais aller au championnat de France, par exemple. Je veux faire champion de France. Si dans ta tête, tu te dis, ouais, je m'entraîne comme ça, tu vas pas aller bien loin.
14h34 sur RMC, on est en direct avec Antoinette Nanadjoumou, qui a été double championne d'Europe de l'heptathlon, évidemment, qui a fait 4e aux Jeux de Londres en 2012. Le tour de notre direct, tout de même, dans l'Intégral Sport, retour sur le Grand Prix MotoGP d'Assen. Morgane Maury, plus d'espoir pour Fabio Quartararo qui domine le Grand Prix du coup.
Et c'est toujours Francesco Bagnaia, le poleman, qui aura fait la course de bout en bout en tête, et il reste 4 tours. Il est leader, le pilote Ducati, devant l'Italien Marco Bezzecchi qui pointe derrière 1 seconde et 7 dixièmes. 3e position pour Maverick Vinales, et on guette la remontée d'Alex Espargaro. Fabio Quartararo l'a fait sortir de piste en début de course, il était descendu au fond du classement, il est pour l'instant 7e. L'Espagnol, il reprendrait 9 points au pilote français qui a abandonné. Joan Zarco est plus loin, il est à la limite du top 15, 14e le pilote avignonnais.
Compliqué pour nos Français qui restaient sur un doublé le week-end dernier, mais bon, il y a des grands prix sans, comme on dit, Grand Prix des Pays-Bas, galère pour Fabio Quartararo notamment. Les championnats de France de cyclisme à Cholet, Pierre-Yves Leroux et Cyril Guimard, où en est-on?
C'est du tableau noir pour le moment, 84 km à parcourir, 2 minutes d'avance pour les 14 hommes échappés du tableau noir pour l'équipe Groupama FDJ, puisqu'Arnaud Démare est encore protégé par 10 garçons devant lui. Et puis, formidable, il y a en plus les Cofidis et les Saint-Michel Aubert qui viennent lui donner un coup de main. Donc pour le moment, tout se passe bien, Cyril, pour Arnaud Démare, qui est le grand favori aujourd'hui à Cholet.
Oui, le grand favori, et puis je crois que sa position de favori est tout simplement en train de se renforcer, puisque d'autres équipes viennent prêter main forte à l'équipe Groupama FDJ, et tout ça, bien sûr, ça permet aux équipiers d'Arnaud Démare de se mettre un petit peu à l'économie.
2 minutes d'avance donc pour les échappés à 83 km de l'arrivée sur terrain sec, hein, il faut le préciser, Benoît, parce que dans ce parcours très urbain, c'est important de le noter, pas trop de risque de chute, contrairement à hier matin pour les amateurs où c'était vraiment très très difficile.
Scénario idéal pour Arnaud Démare, qui était le grand favori de cette course. Et c'est ce qui nous embête dans cette histoire, Cyril et Pierre-Yves, c'est qu'il ne sera pas sur le Tour de France. Donc on aimerait bien quand même avoir un maillot tricolore sur les routes du Tour. A priori, si c'est Arnaud Démare, ça va être compliqué.
Effectivement, si c'est lui qui l'emporte.
On ne peut pas le déléguer, ça n'existe pas.
Non, ça on ne peut pas faire. Effectivement, c'est pas possible. Et je te signale d'ailleurs que sur le contre-la-montre, on n'aura pas non plus le maillot de champion, puisque c'est Bruno Armirail qui s'est imposé et qui n'est pas dans la sélection de la Groupama.
Ok, et ben on vous retrouve dans un instant pour la suite de cette course au championnat de France à Cholet, toujours avec Antoinette Nanadjoumou, évidemment, pour parler de cette équipe de France d'athlétisme. Bon, on a été un petit peu inquiet, circonspect par rapport aux performances récentes. Est-ce qu'on a quelques motifs d'espoir? Tu m'as parlé toi-même de Sacha Zoya, qui a fait une énorme perf sur 110 mètres hier, qui s'est qualifié pour Eugene, les championnats du monde qui auront lieu à partir de mi-juillet.
Ouais.
Il bat son record perso, il est vraiment sur une pente ascendante. Ça peut être une vraie chance de médaille pour 2024, par exemple?
Ouais, franchement, ouais. Sacha, oui, c'est une vraie chance de médaille. Surtout que je ne pensais pas que la transition entre les basses et les hautes.
Oui, parce que ce n'est pas la même hauteur en junior et chez les seniors.
Parce que là, il est passé en 1,06, donc vrai qu'il a quand même pris son temps. C'est parce qu'il n'a pas fait la saison en salle, donc il a pris son temps pour pouvoir s'adapter aux et hautes. Et là, franchement, il a bien réussi.
Ouais, c'est vrai.
Et là, faire ce niveau-là, faire 13-19, je ne sais plus comment il a fait.
13-17, tant corrigé.
17, donc.
À quand hier?
C'est fort, il a 20 ans, donc en plus, il a encore une marge de progression énorme. Donc je pense que lui, c'est sûr que c'est une chance de médaille.
D'accord. Tu serais satisfaite avec combien de médailles dans 2 ans au niveau de l'équipe de France d'athlétisme?
Franchement,
on sort d'une médaille à Tokyo, on le rappelle.
C'est à domicile.
il y a des spectateurs qui nous regardent et un monsieur qui nous dit 5.
C'est à domicile. Je me dis, il y a Sacha.
5 consignes, hein, je crois.
Je me dis, il y a Quentin Bigot, il y a.
Ouais. Il y a Kevin quand même, Kevin Mayer.
Il y a Kevin Mayer, je refuse pas, mais après Kevin, il faut que il soit à 100%.
Que tout soit aligné,
il faut que tout soit aligné pour prétendre à une médaille, parce que maintenant il y a quand même des gros gibiers dans les DK.
C'est vrai.
Européens, il y en a qui progressent, donc il faut qu'il montre qu'il est toujours là, quoi, et qu'il est présent. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très fort, mais il a besoin tout le temps d'être confiant, d'être sûr de ce qu'il va faire avant de se lancer quelque part.
Ouais.
Et il y a aussi qui, il y a Serena Maria Samba.
Ouais.
je pense aussi qu'il peut faire quelque chose si il continue à, bah, si il continue à faire ce qu'il fait. Bah, je pense que ça peut être des chances de médaille. Après, comme on dit, la clé, il y a beaucoup d'élus pour trois médailles, donc ça peut arriver.
Ouais, c'est une compète.
C'est vrai que le fait que ça se passe à domicile, ça peut être un plus. Donc il peut y avoir des surprises aussi. Donc je sais pas.
Et ben, on suivra ça. Merci Antoinette Anadjimou d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite. Et on te retrouve notamment à commenter les championnats de France d'athlètes d'ici quelques heures. Ouais. C'est que tu as suivi sur RMC.
Merci beaucoup.
En direct de Caen. Merci Antoinette. À bientôt. Il est 14h39. On va retrouver justement Maria Azé, notre journaliste, qui est sur place sur le parvis du Stade de France. Maria, tu t'es installée à côté du rugby à 7, je crois. Hein.
Oui, à côté du rugby à 7, parce que c'est l'un des stands où la queue est la plus grande. C'est vrai qu'il y a énormément de monde à attendre pour pouvoir participer au rugby à 7. Et là, je suis justement avec Zachary. Donc lui, il a eu la chance de pouvoir passer dans les premiers. Zachary, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le rugby aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai choisi le rugby parce que c'est un sport collectif. Il faut aussi gagner. Et ce jeu, faut avoir... faut pas se cacher, faut toujours être là. C'est même si t'es nul, faut toujours t'encourager. On a besoin de tout le monde, d'efforts, des nuls, de la vitesse, de la non-vitesse.
Et qu'est-ce que tu vas faire justement là? Tu t'apprêtes à jouer un match?
Là, vu que j'ai déjà fait le stand et que je pratique ce sport depuis 6 ans, je vais aider aux gens qui essayent ce sport, à les aider et comme ça. Qu'ils essayent et deviennent des très bons joueurs.
Et je suis aussi avec Kevin, qui est éducateur de rugby sur le stand justement. Donc est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous faites ici?
Bonjour, alors déjà nous on fait des petits jeux pour les plus petits et pour les plus grands qui nous permettent en fait d'avoir soit des jeux de motricité, soit des jeux autour du duel avec une partie collective. Donc on essaie de varier un petit peu pour que tout le monde puisse profiter de toutes les activités.
C'est important pour vous d'inculquer un petit peu les valeurs du sport à tous ces enfants qui sont venus aujourd'hui?
Oui, bien sûr, sur notre territoire, c'est notre travail au quotidien. Et en plus de ça, à l'intérieur, on y trouve aussi des valeurs comme le respect, l'entraide. Ils s'encouragent aussi, donc c'est important pour nous, ici, qu'ils aient cette valeur-là.
Merci beaucoup, Kevin. Voilà, donc on va laisser les enfants commencer leur entraînement et s'entraîner pour faire leur meilleur plaquage.
N'hésite pas, toi aussi, Maria, si tu veux te lancer dans un ou deux plaquages, pourquoi pas?
Je vais essayer.
Tu peux plaquer Pierre Thévenet, pourquoi pas? Quel autre journaliste à RMC pouvait faire un contre un? Ça peut être intéressant. Ou alors, je te vois bien sur le mur d'escalade. Pourquoi pas? Il est juste en face du studio d'RMC, de la tente RMC. Si tu arrives à aller jusqu'en haut, bravo. Ok, Maria?
Je vais essayer.
Bon, ça marche. À tout à l'heure, 14h41, l'intégral sport qui va se poursuivre tout au long de l'après-midi. On est là en direct du parvis du Stade de France jusqu'à 19h. On se quitte quelques instants auparavant. C'est fini à la moto, tiens Morgane Maury, c'est fini Grand Prix MotoGP des Pays-Bas, Morgane.
Victoire de Francesco Bagnaia sur sa Ducati. Il était en pole position, il a fait la course en tête, les 26 tours seul en tête, le pilote italien. 7e victoire en MotoGP pour lui. Il l'emporte devant Marco Bezzecchi et Vignales. Mauvaise nouvelle pour Fabio Quartararo qui a chuté, c'est qu'Alex Espargaro qui était 7e à 2 tours de l'arrivée, 6e avant le dernier tour, a doublé 2 hommes dans la dernière chicane et marque 13 points de la 4e place. Il revient à 21 points du Français qui a chuté à 13 tours de l'arrivée. On le rappelle, sa moto l'a fait décoller, il est tombé. On va guetter les nouvelles de la clinique mobile, voir si le Français n'est pas blessé à la clavicule. 13e position pour Johan Zarco, place maintenant à 5 semaines de vacances pour les pilotes, le temps de se soigner pour Quartararo. On retrouvera ce joli monde à Silverstone pour le 12e des 21 Grands Prix de la saison.
Merci Morgane, les vacances arrivent au bon moment effectivement pour Fabio Quartararo. On espère que s'il y a blessure, elle n'est pas trop grave. 14h42, Intégral Sport revient dans un instant. On sera en direct avec le tout nouveau champion de France du 800 mètres, Benjamin Robert. On sera également avec son entraîneur Sébastien Gamel. On va se poser la question, comment planifier justement une préparation olympique. A tout de suite sur RMC.
Allez, il s'arrache également. Kevin Mayer, c'est parti bien plus loin. Superbe lancer de Kevin Mayer. Les deux bras en l'air. Il frappe sa poitrine. Celui-là, il est parti très très loin. Kevin Mayer, il crie sa rage évidemment dans le stade olympique. 73,09 m. Record personnel. Il est en argent.
RMC Intégral Sport spécial Paris 2024.
C'est Marc Evenot au service, un service flottant. Allez, petit gars à contre pour terminer.
Allez, fais jouer.
C'est d'or. La France est championne de l'Olympique. La France est championne de l'Olympique de volley. Médaille d'or. Les Bleus sont champions olympiques. Les Bleus sont sur le toit du monde.
Nicolas.
14h46 sur RMC l'Intégral Sport en direct du Parvis du Stade de France pour cette journée olympique. On est un peu plus de deux ans des Jeux de Paris 2024 et on reçoit une pléiade d'invités depuis 9h ce matin et jusqu'à 19h. Vous êtes les bienvenus. Entrée gratuite ici au Stade de France à Saint-Denis. Vous pouvez venir participer, venir assister à cet événement et tester les différents sports olympiques. L'escalade, le hockey sur gazon, le water polo, le tennis de table. Il y en a pour tous les goûts, le tir à l'arc. Vraiment, vous pouvez y aller. Le breakdance également, sport qui fera son apparition à Paris en 2024. Indirect, toujours en cours, les championnats de France de cyclisme à Cholet. Pierre-Yves Leroux, Cyril Guimard.
On se rapproche tranquillement de l'arrivée, 75 km à parcourir et ça commence à faire mal dans les pattes parce qu'on le rappelle, il y en a 240 autres au total à parcourir et s'ils étaient 14 dans l'échappée tout à l'heure, ils ne sont plus que 12 puisqu'on a perdu Valentin Paré-Peintre et Pierre Latour qui se sont relevés. Le peloton est toujours à 2 minutes 13 derrière, emmené par les équipes Saint-Michel-Aubert pour Jason Tesson, par Cofidis pour Brian Coquart et évidemment par les coureurs de l'équipe Groupama FDJ pour le grand favori Arnaud Démare. Cyril, c'est un moment quand on va arriver au cap des 200 km où là ça fait la différence entre certains coureurs.
Oui, logiquement on va passer le cap des 200 km. Nous serons à deux tours de l'arrivée, deux tours de 20 km et à partir de ce moment-là, eh bien la course va changer véritablement de visage. Il y a ceux qui passent les 200 km et ceux qui au bout de 200 km bah, commencent à toxiner. J'ai envie de dire que pour l'instant tout se passe bien pour Groupama FDJ.
Voilà, 240 Benoît, bah, ça nous rappelle les distances comme un Milan-San Remo et on sait que sur la fin il y en a quelques-uns qui ont du mal à suivre.
Ah oui, ça commence à faire mal aux jambes. Effectivement, merci Pierre-Yves. Merci Cyril. À tout à l'heure, on rappelle l'autre info sportive de ce début d'après-midi. C'est la victoire de l'Italien Francesco Bagnaia sur le Grand Prix MotoGP des Pays-Bas. Malheureusement, chute et abandon pour Fabio Quartararo qui était parti deuxième. Donc on espère que les nouvelles seront rassurantes pour le Français qui est toujours leader du championnat du monde. Il est 14h48 et justement, on va parler planification olympique dans l'Intégral Sport avec un champion de France sacré hier soir à Caen. Évidemment, les championnats de France d'athlée qui se déroulent en Normandie. C'est l'homme en forme de l'équipe de France d'athlée, c'est Benjamin Robert. Salut Benjamin. Est-ce qu'il est là, Benjamin? Est-ce que tu m'entends? Petit souci de connexion avec Benjamin Robert. Est-ce que Valentin Jamin est là et m'entend? Est-ce qu'il est à côté de toi?
Bonjour, ah, bonjour à tous.
Ah, ben oui, on t'entend. Ah, comment ça va?
Vous entendez, ça va très bien, mais je suis avec Benjamin. Vous n'entendez pas Benjamin?
Ah, Benjamin, est-ce que tu peux faire un test, Benjamin?
Un, deux, essayez. Un, deux, un, deux. Est-ce que vous m'entendez là?
Tu nous diras un TPC pour voir si ça marche?
Ok, nickel.
Ah, je crois qu'on a un problème de connexion. Est-ce que tu nous entends, Benjamin?
Si vous entendez, Benoît, c'est bon?
Ouais, là, on vous entend.
Allez, allez, vas-y, Benjamin, je pense qu'il t'entend, c'est bon.
Oui, c'est bon, j'entends, bonjour.
Bon, ça va, Benjamin? Félicitations pour ce titre de champion de France décroché hier sur les 800 mètres. C'est vraiment ta période, hein, Benjamin. Tu as remporté le meeting de Ligue de Diamant à Charletti la semaine dernière et là, hier, titre de champion de France dans une densité incroyable. Ça va, la période est belle, là, Benjamin.
Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai pas très bien entendu la question avec le casque. Qu'est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
Ouais, je te disais, la période est bonne pour toi. Victoire en Diamond League, titre de champion de France, tout se passe bien en ce moment-là pour toi?
Oui, ça va très bien. En ce moment, tout se passe nickel. Le travail paye, ça fait plaisir. Donc, c'est un très très bon début de saison. Mais je pense que c'est vraiment que le début parce qu'on a les championnats du monde fin juillet, puis championnat d'Europe. Donc, la saison est loin d'être finie.
La saison est longue, effectivement, avec cette signature Benjamin Robert désormais sur le 800 mètres. C'est ce finish incroyable. C'est quoi ton secret en fait pour doubler tout le monde dans le dernier 100 mètres? Comment tu fais? Parce que ça arrivait deux fois de suite là en 6 jours.
Non, le secret, je sais pas, je pense que c'est le travail avec mon coach, avec mon groupe d'entraînement, toute l'équipe qui m'accompagne. C'est du travail dur et c'est pas qu'une année où je prépare ça, c'est plutôt sur de plusieurs longues années, mais je saurais pas dire, pas de secret en tout cas.
Ouais, effectivement, donc magnifique performance et cette densité, on le disait sur le 800 mètres. Tu peux nous parler de cette équipe de France? Vous étiez 7 hier au départ de la course, avoir réalisé les minima pour les championnats d'Europe. Il y aura championnat du monde et championnat d'Europe, évidemment vous n'irez pas aux deux, ce sera dispatché au niveau de l'équipe de France, mais le 800 mètres français marche bien en ce moment, Benjamin.
Ah oui, là je pense que c'est une des plus grandes années qu'on peut connaître avec cette personne qui a fait minima pour le championnat d'Europe. Mais bon, ça, je pense qu'on peut on le doit grâce à Pierre-Ambroise Boss qui est là depuis quelques années, qui a son titre de champion du monde, qui nous a bien tiré vers le haut. Et après, on a Gabriel Thual qui a fait 7e aux Jeux Olympiques l'an dernier. Moi aussi, qui n'ai pas fait ce que je voulais. Mais voilà, donc il y a Pierre, il y a nous, il y a notre jeune génération qui arrive. Donc on est obligé de se bouger à l'entraînement pour être performant en France.
Alors, on voulait t'avoir en cette journée olympique parce que, effectivement, tu es en pleine forme dans cette équipe de France d'athlètes. On est un peu plus de 2 ans des Jeux de Paris en 2024. Tu le disais, les courses s'enchaînent pour toi. Il y a eu la Diamond League, il y aura ces mondiaux à Eugene. Est-ce que malgré tout, Paris 2024, c'est d'ores et déjà dans la tête et tu y penses tous les jours, tous les matins, Benjamin?
Ah, mais j'y pense depuis qu'on a eu la confirmation qu'on avait les Jeux Olympiques à Paris. Dès qu'on a eu la confirmation, moi, c'était dans ma tête. Et je sais que j'aurai 26 ans en 2024. C'est l'âge parfait, on va dire, pour le 800 mètres en termes de capacité physique et maturité. Donc, moi, clairement, je vise, je coche les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Ouais. Évidemment, on voulait parler justement avec toi de cette planification olympique, hein, un peu plus de 2 ans des Jeux de Paris. Donc, on sera avec ton coach également, Sébastien Gamel, d'ici quelques secondes. Est-ce que tout est déjà planifié pour toi, pour évidemment le cheminement vers Paris 2024, les minima à réaliser, j'imagine, les séries? Est-ce que d'ores et déjà, toute ta préparation physique est focalisée vers ce grand événement qui t'attend dans 2 ans?
Alors oui, mais déjà faut prendre année par année. Là, faut prendre tout ce qu'il y a à apprendre. C'est-à-dire là, cette année, on a vraiment le championnat du monde qui sera déjà une belle étape pour s'entraîner pour le. C'est un bon test pour préparer les Jeux. On a la chance parce qu'on a Mondiaux et Europe cette année. L'année prochaine, on a les championnats du monde avec le Covid qui a tout décalé. Donc vraiment, c'est 3 années de folie pour prendre un maximum d'expérience. Mais voilà, le but du jeu, c'est prendre l'expérience, mais c'est aussi gagner des courses dans des grands championnats et le niveau mondial. C'est les championnats du monde, c'est le niveau olympique, c'est les mecs qu'on rencontre en Diamond League, c'est tout ça. Donc l'expérience, on la prend dès aujourd'hui.
Ouais, on rappelle que le champion olympique, c'est évidemment le Kenyan Emmanuel Korir qui a été sacré à Tokyo l'an dernier sur le 800 mètres. On est en direct avec ton coach Sébastien Gamel, du coup, qui est là. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
On a eu la réponse de l'athlète, la réponse du coach désormais. Est-ce qu'on planifie d'ores et déjà tout cela vers Paris 2024 ou comme l'a dit Benjamin Robert, on prend étape après étape, on se concentre sur Eugene, après sur les prochains mondiaux et après on aura le temps de passer à 2024?
Mais je vais vous répondre les deux. Moi, la planification pour Paris, elle a commencé avec Benjamin quand j'ai récupéré il y a 2 ans. Je sais exactement les étapes qu'il faut franchir pour arriver en forme à Paris. Mais comme vous l'a dit Benjamin, c'est step by step. Cette année, il y a Eugene, il y a aussi le championnat d'Europe à Munich. L'an prochain, il y a les championnats du monde à Budapest. Et puis, il y a aussi des événements en salle pour qu'il se prépare dans les meilleures conditions pour être très très fort en 2024.
Parce qu'on l'a dit, la spécialité de Benjamin Robert, c'est le finish des courses sur le 800 mètres. Ça veut dire que tu vas accentuer cette qualité avec lui ou alors tu vas travailler un petit peu les autres aspects tactiques de la course, un peu plus d'endurance sur le 800 mètres?
L'objectif, c'est qu'effectivement, il apprenne à s'en sortir dans quel que soit le format de la course. Il l'a vu l'an dernier aux Jeux Olympiques, il se fait sortir en série malgré un super finish qu'il avait déjà. Il n'arrive pas, il est derrière aux 200 puis il n'arrive pas à les battre. Donc l'objectif, c'est comme il a fait cette année, c'est apprendre à courir devant, soulever la bagarre et être dans les 3-4 premiers à 200 mètres de l'emballage pour essayer de gagner toutes ces courses.
Benjamin, est-ce que tu penses déjà être au niveau des meilleurs mondiaux? Je regarde un peu les temps de la finale du 800 mètres justement à Tokyo. Les conditions étaient un petit peu particulières, mais ça s'est couru en 1:45. Est-ce que c'est un chrono qui te semble envisageable pour une finale de Jeux Olympiques comme ça? Tu penses être au niveau des meilleurs dans cette catégorie?
Oui, bien sûr, je pense. Mais après, le problème, c'est que c'est le 800 mètres. Même si on est capable de réaliser ce chrono-là, c'est l'enchaînement des courses qui va être compliqué. Voilà, c'est la stratégie qui est compliquée. Il n'y a pas de favori sur 800 mètres. Il y a un aspect vraiment de tactique qui est ultra importante. C'est pas forcément le meilleur du monde qui est champion du monde. Et donc voilà, il faut être prêt à toutes les circonstances, être fort au finish, au train. Aussi enchaîner les 3 courses, c'est pas évident, et gérer la pression du stress.
Ouais, évidemment. Tu confirmes, toi, Sébastien, qui est son entraîneur? Il a le niveau justement des top meilleurs mondiaux. Il y a toute la stratégie qui est importante dans le 800, mais les jambes sont là.
Ouais, les jambes sont là. Vous l'avez vu à la Diamond League de Paris. J'en parlais hier avec Valentin Lavillenie. On essayait de voir l'historique des Français qui ont gagné des Diamond League, à part Renault. on a un beau chercheur, on l'a pas trouvé. Donc c'est rarissime. C'est pas si un exploit, mais c'est la confirmation que Benjamin a un énorme potentiel. Maintenant, comme il a dit, il faut arriver à renouveler ça. Parce que voilà, créer l'exploit c'est bien, mais rester en haut c'est le plus dur. Donc il faut construire là-dessus, capitaliser sur ses qualités. Et voilà, mais à Toulouse, on est à bonne école. Quand on a un moteur comme le Stade Toulousain, on essaie de prendre exemple.
Ou le TFC. Le TFC, ouais, qui remonte en Ligue 1.
Exactement.
D'ailleurs, il me semble, particularité pour toi Benjamin, tu partages le même kiné que Léon Marchand, notre champion de natation, c'est ça?
Exactement, c'est ça. Stan, il s'appelle.
Exactement. Bon, bah, il aura du boulot en vue de Paris 2024. Merci Benjamin Robert d'avoir été avec nous. Merci à ton coach Sébastien Gamel également. Et merci également à Valentin Jamin qui nous fait suivre le championnat de France d'athlétisme à Caen, qui a permis justement ce direct. Merci à tous. 14h56 sur RMC, avant de transmettre le relais à Maxime Gras, une info foot signée Loïc Tanzi, une info RMC Sport. Elle est importante, elle concerne le Paris Saint-Germain. La réflexion d'un départ est engagée pour Neymar. Et je vous donne l'info comme Loïc nous la livre. A priori, Neymar est tout vert désormais à un départ. Au début, il ne souhaitait pas quitter le PSG cet été. En pleine année de Coupe du Monde, il estimait avoir montré des signes d'implication. Il s'est montré ouvert à un départ ces derniers jours. Évidemment, ça résonne aux propos tenus par Nasser Al-Khelaifi il y a quelques jours dans différents médias, qui a dit effectivement qu'il allait avoir des discussions personnelles avec chaque joueur compte tenu de l'implication. Mais voilà, Neymar serait ouvert à un départ. Vous avez tous les détails sur rmcsport.fr et on va en reparler tout au long de l'après-midi avec Maxime Gras qui prend la suite, ici la suite de l'Intégral Sport, toujours en direct du parvis du Stade de France. Salut Maxime.
Salut Benoît, quel marathon tu nous fais effectivement. On parlera de cette info, évidemment, Neymar sur le départ qui veut partir. Loïc Tanzi sera avec nous, évidemment, juste après 15h, toujours en direct du parvis du Stade de France où l'antenne d'RMC est délocalisée depuis ce matin, 9h, des milliers de personnes pour venir tester ces sports olympiques Paris 2024 à l'honneur. Évidemment, dans le viseur, on débat de tous les enjeux à quelques 800 jours, un petit peu moins, des Jeux. C'est dans l'Intégral Sport, deuxième relais. A tout de suite.
RMC
Intégral Sport spécial Paris 2024.